sommaire de cette édition, une enquête préliminaire du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme et de la MONUSCO confirme que les rebelles du M23 ont tué au moins 131 civils, dont 102 hommes, 17 femmes et 12 enfants. Ces tueries ont été perpétrées au Nord Kivu le 29 et 30 novembre dernier à Kishishe et à Bambo, deux villages du territoire de Rutshuru. Au Nord Kivu, plus de 50 miliciens de la faction Codeco sont actuellement en Zébi, dans les territoires de Djougou. Le bourgmestre affirme que ces miliciens ont quitté leur bastion en Mbaou pour déposer les armes. Ils demandent au gouvernement central d'assurer leur prise en charge. Notre invité, c'est le secrétaire administratif de la chefferie de Bachali au Nord Kivu. Willy Musunga appelle le gouvernement central et ses principaux partenaires à assister au plus vite 850 ménages venus de Rutshuru et qui vivent actuellement dans des conditions extrêmement difficiles à Kichanga. Madame, Messieurs, bonsoir. Une enquête préliminaire du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme et de la MONUSCO a permis de confirmer que les rebelles du M23 ont tué au moins 131 civils, dont 102 hommes, 17 femmes et 12 enfants. Ils ont blessé également par balle 8 personnes et enlevé 60 autres. Au moins 22 femmes et 5 filles ont été violées à l'occasion. Ces tueries ont été perpétrées le 29 et 30 novembre dernier à Kishishe et à Bambo, deux villages du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Dans un communiqué publié à Kinshasa, la mission onusienne salue la décision des autorités congolaises d'ouvrir une procédure judiciaire contre les auteurs de ces violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Explication de Cynthia Bachizina Bizana.
Cette enquête révèle que ces violences ont été commises dans le cadre d'une campagne de meurtre, de viol, d'enlèvement et de pillage contre ces deux villages du territoire de Rutshuru. Autre précision apportée, les victimes ont été exécutées arbitrairement par balles ou à l'aide d'armes blanches. C'était en représailles à des affrontements entre le M23 et les forces démocratiques de libération du Rwanda et des groupes armés Mai Mai et Nyatura. La MONUSCO condamne dans les termes les plus fermes la violence innommable contre les victimes et appelle à un accès sans restriction aux lieux des faits et aux victimes pour une assistance humanitaire d'urgence. Par ailleurs, elle salue la décision des autorités congolaises d'ouvrir une procédure judiciaire contre les auteurs de ces violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La mission se dit prête à contribuer à ces efforts et réitère également l'appel du secrétaire général des Nations Unies pour que tous les groupes armés congolais et étrangers déposent immédiatement les armes et qu'ils puissent s'engager dans les processus respectifs de démobilisation, de désarmement et de réintégration, rapatriement selon le cas.
Merci pour ces précisions, Cynthia Bachizina Bizana. À propos justement des massacres survenus à Kishishe, plusieurs voix s'élèvent pour voir les auteurs de ces crimes traduits en justice à la Cour pénale internationale. Question: quelle est la procédure pour une saisine devant la CPI? La réponse avec vous, Jeff Ngoy.
Le statut de Rome nous renseigne sur trois modes de saisine et comment les affaires parviennent devant la Cour. D'abord, tout État parti au statut peut demander au procureur d'ouvrir une enquête. Et à ce sujet, le gouvernement congolais, par l'entremise de sa ministre de la Justice, vient de demander à la CPI à ne pas laisser ce qu'elle qualifie de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et de crimes d'agression impunis. Elle a même invité le procureur de cette juridiction à visiter la RDC lors de sa tournée l'année prochaine. Il faut noter aussi qu'un État qui n'est pas parti au statut peut aussi accepter la compétence de la Cour pour des crimes commis sur son territoire ou par l'un de ses ressortissants et demander au procureur d'enquêter. Ensuite, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut également renvoyer une situation devant la Cour. En troisième lieu, enfin, le bureau du procureur peut, de sa propre initiative, ouvrir une enquête, ce que l'on appelle enquête proprio mutu. Lorsqu'il dispose d'informations fiables sur les crimes mettant en cause les ressortissants d'un État parti ou d'un État qui a accepté sa compétence. Ces informations établies sur une base raisonnable peuvent aussi provenir des particuliers ou des ONG.
Dans l'actualité en plus bref, il y a également cette accalmie observée ce jeudi sur les lignes de front entre les FARDC et les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Selon des sources concordantes, les FARDC et les rebelles du M23 n'ont pas bougé de leurs positions respectives. Toutefois, selon les mêmes sources, les rebelles du M23 qui avaient pourtant annoncé quitter la zone continueraient actuellement à renforcer leurs positions avec des troupes supplémentaires, notamment à Bouizé, Gaza dans les groupements des Bichoucha. Cette situation a été observée ce jeudi matin, ce qui accroît davantage l'inquiétude dans les agglomérations proches des lignes de front. Revenons un instant au Nord Kivu où les femmes leaders des Kichanga demandent au gouvernement provincial et ses principaux partenaires d'organiser en urgence un dialogue de paix en vue de retrouver la cohésion sociale mise à mal par l'insécurité. Cette requête a été formulée lors d'une rencontre tenue hier mercredi à Kichanga avec une délégation de la MONUSCO venue évaluer la protection des civils à Kichanga et ses environs. De Kichanga, un appel de Rosalie Zawadi.
Pour les différentes couches sociales vivant à Kichanga, la résurgence du M23 et l'arrivée dans la cité des éléments des groupes armés affectent la cohabitation entre les communautés. Par exemple, les voisins ne se font plus confiance et les jugements sont réciproques entre communautés, regrettent les femmes leaders. Certains habitants préfèrent partir. Pour les femmes leaders de Kichanga, les gouvernements ne devraient pas laisser cette situation perdurer, d'où cet appel de l'une d'elles.
Ce n'est pas à dire que maintenant ce sont les Tutsis seuls qui quittent la cité. Tout celui qui a très peur est en train de fuir. Pour que la paix et l'unité reviennent, il faut qu'on organise rapidement des tables rondes, des dialogues de paix, qu'on invite toutes les communautés ensemble autour d'une table. Cela peut nous aider.
En attendant, les femmes leaders de Kichanga invitent toutes les mères des familles dans cette zone à prendre le temps d'enseigner les valeurs de la paix à leurs enfants. Kichanga, Rosalie Zawadi. Radio Okapi.
En Ituri, pendant ces temps, une cinquantaine de miliciens de la faction Codeco, dénommée Bon Temple des Dieux et leurs dépendants, se sont regroupés depuis hier mercredi dans la localité minière d'Inzebi, située à 8 km de la commune rurale de Mungwalu dans les territoires de Djougou. Le bourgmestre de la commune affirme que ces miliciens ont quitté leur bastion de Mbaou pour déposer les armes. Ils se disent fatigués de la guerre. Cependant, ils demandent au gouvernement central d'assurer leur prise en charge. Jean-Pierre Bikilisende a été joint par Marcel Kizabiamungu.
Il faut qu'ils tiennent vraiment la main tendue du chef de l'État. Nous les encourageons aussi par rapport à leur volonté de déposer les armes. Puisque ça fait 3 mois qu'ils nous lancent des messages comme quoi ils sont fatigués de vivre dans la brousse. Ils aimeraient bien rentrer vivre avec tout le monde dans la communauté. Et le dernier message qui nous est parvenu, ça fait 2 semaines, il y avait 2 mamans qui étaient kidnappées chez eux. Et les mamans avaient fait à peu près 10 jours en brousse. Ils les avaient libérées avec un message précis. Ces mamans sont venues nous voir au bureau et ils nous ont passé ce message. Ils ont dit que les Codeco disent qu'ils sont fatigués de vivre en brousse et qu'eux, ils voudraient bien sortir et vivre avec tout le monde. Je les encourage à aller dans cet élan-là et que les programmes de BDRCS sont en train de se mettre en route et que les moments venus, il faut qu'ils déposent les armes et qu'ils rentrent vivre dans la communauté comme tout le monde.
Jean-Pierre Bikilisende, bourgmestre de la commune rurale de Mungwalu, a été interrogé au téléphone par Martial Kizabiamungu. Notez que le gouvernement provincial dit ne pas être au courant de cette situation. Au sud Kivu, les troupes conjointes FRDC Force Nationale du Burundi de l'EAC sont arrivées depuis le week-end dernier à Bijumbo dans les hauts plateaux du territoire d'Uvira. C'est dans le cadre de la deuxième phase de leurs opérations militaires. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud à Uvira, le lieutenant Marc Elongo, précise que ces troupes ont pour mission de traquer tous les groupes armés locaux et étrangers opérant dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe, de Bidjombo et de Mikenge. À Uvira, la correspondance de Fiston Ngoma Mayabala.
Aussitôt arrivées, les forces conjointes de l'EAC ont organisé lundi dernier une réunion conjointe avec les régiments des FRDC basés à Bidjombo et la MONUSCO avec l'objectif de renforcer la collaboration pour la protection des civils. Le porte-parole de l'armée à Uvira, le lieutenant Marc Elongo, indique que des grands groupes rebelles et des groupes d'autodéfense sont ciblés dans cette deuxième phase des opérations. Parmi ceux-ci figurent les Yakutumba, Turwane Ogumeno ainsi que les Bilose Bishambuke et alliés. Lors de la première phase des opérations contre les rebelles burundais, Aloïse Nzabampema, chef du FNL burundais grièvement blessé lors des combats, se serait enfui avec ses troupes vers la forêt du Tombwe. D'autres sources locales les donnent morts sans donner d'autres détails. Signalons que l'avancée des troupes de l'EAC est redoutée par les groupes dirigés par le colonel Mitabu à Minembwe. En dehors de la tension déjà observée à Minembwe centre, ces déserteurs de l'armée aurait quitté la forêt de Bidjabo, fief de Michel Makanika, et installé une position avancée à Kalingi au nord de Minembwe Centre en vue de réorganiser ses troupes pour une contre-attaque. Le commandant secteur, le général-major Ramazan Fundi, demande à la population de ne pas encourager les milices armées et de dénoncer leur présence auprès des FRDC. Douvira Fistongo Mayabala, Radio Kapi.
Ouvrons le chapitre santé avec le Sud Kivu où plus de 73 cas de femmes victimes de violences conjugales ont été documentés de janvier à novembre 2022. 5 femmes ont trouvé la mort pendant cette période. Révélation faite mercredi à Bukavu par les membres du groupe du programme Voix et Leadership des femmes du Sud Kivu. Ces femmes soutiennent le projet de loi portant prévention et répression des violences basées sur le genre. Je vous propose d'écouter un extrait de leur déclaration lue par Liliane Polé-Polé, des propos recueillis par Emmanuel et la Mejua Kabili.
Pour la période allant de janvier à novembre 2022, en province du Sud Kivu, 5 femmes ont trouvé la mort des suites de violences conjugales. En outre, nous, consortium AFEM, KJN, SOICGM, Centre Carter, décrions la recrudescence des cas de violences domestiques dans différents territoires de la province du Sud Kivu. Nos groupes à la base ont répertorié 73 cas de femmes victimes de violences domestiques, dont 23 à Kabare, parmi lesquelles 4 vieilles femmes qui ont échappé à la mort suite aux accusations des sorcelleries dans les groupements des Bougoré. 18 cas ont été répertoriés à Kavumu et 32 cas à Idjoui. Ainsi, pour que ces formes de violence soient sévèrement réprimées et découragées, une loi congolaise spécifique sur les violences domestiques est vivement réclamée. Ceci étant, nous soutenons que l'avant-projet de loi portant prévention et répression des violences basées sur les genres nécessite d'être reçu, voté, promulgué et mis en application.
Autre nouvelle sur Radio Kapi, le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé, a, avec le vice-gouverneur du Kasaï central, pris part à la deuxième réunion du comité de pilotage conjoint du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies tenu du 2 au 6 décembre à Kalemie, dans la province du Tanganyika. Le gouverneur du Kasaï a visité à l'occasion l'école primaire Moulongoy et la maternité de Miketo, deux ouvrages communautaires qui ont été construits dans le cadre de ce fonds, et cela pour favoriser la cohabitation pacifique entre les Twa et les Bantous du village de Miketo. Dieudonné Piémé estime qu'il appartient désormais aux Congolais de s'approprier ce genre de projet et non d'attendre toujours que l'aide vienne de l'extérieur. Il a dit à Honoré Missenga Kalala.
Je trouve que c'est une très bonne chose hein, que les populations qui s'affrontaient hier se rencontrent autour d'un intérêt communautaire et social. C'est une très bonne démarche pour faciliter la réinsertion sociale et surtout la cohabitation.
Qu'est-ce que ça vous inspire pour votre province du Kasaï?
Ah non, chez moi j'ai déjà réalisé ça. Nous avons effectivement un dispositif identique avec pratiquement les mêmes objectifs. Et nous sommes allés même très rapidement parce que nous, en 3-4 ans, on a rattrapé pratiquement ceux qui avaient commencé le conflit plutôt que nous. Donc c'est une très très bonne chose et il est bon que maintenant la société congolaise s'approprie ce type de projet. Il ne faut pas que ça soit toujours une aide qui vient de l'extérieur. Il faut que nous, dans notre planification, nous sachions faire ce genre de choses de manière anticipée. Il faut être prêt à ce genre d'éventualité et ça c'est la leçon que je retiens.
Autre nouvelle en plus bref au Nord Kivu, territoire de Nyiragongo précisément, 6 salles de classe construites en matériaux durables pour les élèves orphelins du complexe scolaire Lève-moi ont été remises hier après-midi à l'autorité territoriale, le commissaire supérieur Patrick Iduma Molemo. C'est grâce au financement de Moïse Katumichapwe. Cet établissement, jadis construit en bâche, est situé dans le village de Turunga, groupement de Munigi. Les élèves étudie dans des conditions extrêmement difficiles. Notez que cette école primaire accueille 65 orphelins internes et 295 élèves externes qui sont actuellement hébergés dans des familles d'accueil et qui sont scolarisés gratuitement.
Actualité internationale.
La conférence des Nations Unies sur la biodiversité s'est ouverte hier mercredi après-midi au Canada. Et le défi à relever est immense. Il consiste à tenter d'établir en moins de 2 semaines une feuille de route pour sauver les espèces et les milieux naturels d'une destruction irréversible. Le président russe Vladimir Poutine a assuré ce jeudi matin que son pays allait poursuivre sans relâche ses frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, dont les précédentes salves ont provoqué des massives coupures d'électricité et d'eau potable en pleine température hivernale, selon une dépêche de l'agence France-Presse AFP.
L'invité.
Notre invité, c'est le secrétaire administratif de la chefferie de Bachali dans la province du Nord-Kivu. Willy Musunga appelle le gouvernement et ses principaux partenaires à assister au plus vite 850 ménages venus du territoire de Rutshuru et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles à Kichanga. Il s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Willy Musunga, bonjour.
Bonjour madame.
Ici à Kichanga, vous avez reçu les déplacés venus de Rutshuru. Ces déplacés sont à combien et ils viennent de quel milieu exactement?
On a difficile à évaluer parce qu'il y a eu un mouvement de déplacés dès que Rutshuru et Kiwanja sont tombés entre les mains de la rébellion du M23. Alors, la population est venue et s'est déplacée peut-être vers Tongo, vers Bambu, Kishishe, et car la zone de Tongo est tombée entre les mains de la rébellion, chemin déplacé, fait mouvement vers Mueso, vers Kibirizi et vers Kichanga. Parmi ceux-là qui sont venus vers Kichanga et Mueso, au fur et à mesure que la menace est devenue de plus en plus grandissante, parmi ces déplacés, une partie a pris la direction de Goma. Mais présentement, aujourd'hui, nous avons pris de 850 ménages dans les familles d'accueil, dans les centres collectifs, mais aussi dans les suites de déplacés.
Dans quelles conditions vivent ces familles?
C'est un peu difficile, donc la vie n'est pas tenable. La vie d'abord à Kichanga, la saison qui est passée, les récoltes ont été réduites de suite d'une période très longue du soleil. La saison sèche a pris de l'espace et a fait que ceux-là qui espéraient à récolter les haricots ne l'ont pas fait de la manière dont ils pensaient bénéficier. Et aussi, la route qui mène vers Pinga, les pots de Mingenge a été emporté par les eaux de suite d'un éboulement, fait que la vie à Kichanga devient de plus en plus difficile parce que on vivait aussi de marché du côté de Walikale, le marché de Mpeti. Chaque fin de la semaine, le vendredi, il y avait un marché qui ravitaillait Kichanga à produits de première nécessité. Mais depuis que le pot a été emporté, c'est difficile qu'à Kichanga on se retrouve. Donc un déplacé qui vient dans des villages où la vie est déjà amère, vous voyez ce que ça pose comme problème. Donc les déplacés vivent dans les mêmes conditions que la population de Kichanga, qui elle-même vit aussi dans des conditions intenables. Voilà pourquoi j'ai dit d'une manière globale que ce n'est pas facile à se déplacer là. Une personne déplacée de nature vulnérable. Maintenant, la vulnérabilité est augmentée aussi par le fait que cette population vit dans un milieu qui est aussi vulnérable, où la vie n'est pas facile.
Et nous apprenons que parmi ces déplacés qui arrivent à Kichanga, il y en a qui ne sont pas à leur premier déplacement depuis qu'ils ont quitté leur village.
Il est vrai, parce que vous voyez, depuis que la guerre a commencé, les frontières avec le Rwanda et l'Ouganda, là, ces personnes déplacées l'ont fait d'abord dans les Rutshuru autant de fois. Une fois dans les Rutshuru, ils se sont déplacés peut-être dans les Bwito, en groupement Tongo et en groupement Bambu. Tongo et Bambu menacés, ils l'ont fait encore en chefferie de Bachane, territoire de Masisi. Voilà, autant de fois on est déplacé. Est-ce que même on peut partir avec l'assiette? Non, on n'en a pas. On peut partir avec une paire de chaussures? On n'en a pas. Voilà pourquoi je réclame au gouvernement provincial, mais aussi aux partenaires humanitaires, d'intervenir le plus vite possible.
Et actuellement, est-ce qu'il y a déjà certaines interventions en leur faveur?
Depuis que ce mouvement de déplacement a eu lieu, aucune intervention humanitaire. Même nous, comme autorité locale, aucune interventions dans les familles d'accueil où ils ont été accueillis, c'est là où ils reçoivent peut-être un petit rien, mais au niveau de l'autorité ici localement, Nous sommes aussi débordés parce que avec tout ce que vous voyez dans la zone, on a même difficile aussi de percevoir ce qu'on percevait au cours de l'année. Donc ces personnes déplacées n'ont rien obtenu depuis qu'ils sont déplacés. Voilà pourquoi nous recourons encore aux partenaires humanitaires de le faire le plus vite possible pour sauver des vies. Vu qu'il n'y a pas à manger dans les familles des déplacés, nous assistons à des cas de malnutrition très sévères aujourd'hui. Et ce que nous avons reçu comme information, on a rapporté 7 décès des suites de la famine au sein des familles des déplacés. Or, ils n'ont pas encore été déplacés pendant très longtemps, ça fait moins d'un mois, il y a déjà des morts, et si ça continuait, c'est que la situation sera dramatique. Voilà pourquoi j'en appelle au gouvernement provincial, mais aussi aux partenaires humanitaires, ceux qui interviennent dans ce secteur-là, de venir en aide à la population déplacée de Kichanga, de Mweso, de Burungu et Consort, parce que cette population vit dans des conditions extra-inhumaines, là, déplorables.
Monsieur Willy Musunga, je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif de la chefferie de Bachali. Merci.
C'est moi qui vous remercie, Madame Rosalie.
C'était donc l'invité de Radio Okapi, le secrétaire administratif de la chefferie de Bachali dans la province du Nord Kivu, Willy Musunga, qui appelait le gouvernement et ses partenaires à assister au plus vite 850 ménages venus de Rutshuru et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles à Kichanga. Il a été interviewé par Rosalie Zawadi Masika. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Noëlla Luzitu Kabambi qui m'a accompagné.